Je sens. Bonjour tout le monde. Donc c'est encore un privilège pour moi de venir vous apporter la parole cet après-midi. Donc on va continuer dans le livre du prophète Osée. Et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le chapitre 8. Donc nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur. On bouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront et crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël un ouvrier l'a fabriqué. Et ce n'est pas un dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Il y en avait des étrangers. Et s'il y en avait des étrangers, la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de paix, qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents parmi les nations. Je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié des autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Parole du Seigneur. Amen. Donc, s'il y a un thème central dans ce chapitre, c'est bien une certaine autosuffisance que la nation d'Israël avait en lui. Une confiance en soi qui était malsaine. Une confiance en soi qui l'a poussé à faire des choix sans pour autant consulter son Dieu, le Dieu de l'Alliance. Avec ses rois autoproclamés, son veau fabriqué par l'homme, ses alliés qui représentaient sa sécurité, mais aussi sa propre version du culte, ont fait en sorte qu'Israël puisse se détourner de son Dieu. Et ce peuple ne s'est même pas donné la peine de se demander si ses actions, si ses choix étaient acceptables par Dieu. Ils n'ont même pas pris cette peine-là de se demander s'ils offensaient ce Dieu-là même qui les a sortis de l'esclavage en Égypte. Au lieu de faire confiance à la fidélité et à la puissance de Dieu, ils ont eu tendance à résoudre leurs problèmes par leurs propres moyens, et c'est notre cas aussi. Nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Nous ne faisons pas confiance en Dieu au point même que nous sommes obligés de pécher. Nous nous reposons tellement sur nous, sur notre soi-disant sagesse, notre soi-disant intelligence, que des fois nous faisons des compromis, mais que ces compromis-là nous emmènent à enfreindre la loi du Seigneur. Et le prophète ici, Osée, résume toute cette histoire au verset 7. Puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Ce qu'ils avaient semé, ils allaient moissonner. Et l'apôtre Paul a affirmé cette même vérité en Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et donc Paul nous rappelle ici que nos actions entraînent des conséquences qui sont réelles. Un petit vent peut devenir un ouragan qui peut être destructeur. Un petit compromis, un tout petit compromis, peut ouvrir la place à un péché qui va nous emmener dans l'hécatombe, jusqu'à un point de non-retour. Ça peut être sur notre éthique personnelle, par exemple. Je peux faire ci, mais c'est pas grave. Mais à la fin, le péché peut être la résultante de ces tout petits compromis-là. Le chapitre 8 expliquera la ruine d'Israël en examinant trois péchés qui semblaient si mineurs au départ, mais qui ont fini par détruire la nation par des rafales de jugement. Donc premièrement, nous avons une confiance en soi, ses propres moyens, dans le fait de se gouverner, dans le choix de ses rois, qui n'ont pas consulté le Seigneur. Deuxièmement, on a cette confiance aux autres, cette confiance en Assyrie, cette confiance dans les pays voisins, au lieu de se reposer sur le Dieu de l'Alliance. Et enfin, on a cette confiance en soi, cette autodépendance à mettre en place des cultes personnels qui ne reflètent même pas ce que l'Alliance et la loi ordonnaient. Et donc, se fiant à ses propres moyens, le peuple d'Israël a négligé l'Alliance de Dieu, a rationalisé la transgression de la loi et a provoqué la colère de Dieu. Et ce peuple allait subir une multitude de jugements. Donc mon premier point, des versets 1 au verset 3, nous allons voir un vautour sur Israël. Nous lisons au premier verset, « En bouche la trompette, l'ennemi fend comme un aigle sur la maison de l'Éternel. » À l'époque, on utilisait les trompettes pour rassembler le monde, pour rassembler le peuple. Et ici, Osée attire à nouveau l'attention sur l'infidélité du peuple envers Dieu. Et ici, on peut voir qu'il y a une absence de verbe. Et ce qui souligne ici que le moment est grave. La situation est grave. Et le mot aigle, on peut dire qu'un vautour est la présence d'un oiseau symbolisé l'envahisseur étranger. Ici, probablement, on parle de la Syrie. quand je dis pas la Syrie, mais Assyrien, royaume assyrien, parce qu'il ne faudrait pas confondre la Syrie de Damas, et puis, mais c'est la Syrie de Tiglath-Pileser. Dieu utilise une nation étrangère pour infliger un châtiment à son peuple. Et nous lisons dans Ésaïe 10, 5 à 6, ce que représentait la Syrie pour Dieu. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Dieu allait utiliser la Syrie pour réprimander son peuple. Et nous continuons. « Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. » Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Dieu s'est servi de la Syrie pour punir son peuple. La Syrie piétinera tout sur son passage, comme la poussière sur les routes, laissant derrière lui, ici, comme on le voit, un désordre dans Israël. Et ici, le prophète Osée évoque l'image d'une violence qui est sur le point de s'abattre sur Israël. La vue d'un aigle qui est tout autant significatif. Parce qu'on va voir un aigle, lorsque vous voyez des vautours, c'est qu'il y a une proie qui est déjà morte et le vautour va venir s'emparer de cette proie-là. Et cette proie, c'était Israël. Et un vautour attendant de dévorer quelque chose de déjà mort ou de déjà condamné. Et l'expression « sur la maison de l'Éternel », on peut dire que ça fait peut-être référence au temple de Jérusalem, mais ici, c'est vraiment la nation d'Israël. Et donc, la raison de cette menace imminente, c'était pas la Syrie, mais c'était l'offense qu'ils avaient faite à Dieu. C'est Dieu qui allait agir. C'est Dieu qui allait les punir. Et c'est pareil comme tout ce qui se fie à leur propre force et aux aides du monde, qui se fie à l'homme. Israël avait oublié que sa relation avec le Seigneur était autant plus importante. Israël avait oublié son Dieu. C'est donc cet arrangement avec le peuple d'Assyrie qui va se retourner contre lui. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi, au premier verset. Notre frère Fadi a parlé de l'alliance tout à l'heure. C'est l'héritage principal du Seigneur qu'il avait fait avec son peuple. C'était son héritage principal, cette alliance. C'était le lien salvateur du peuple avec lui par la foi. Car l'alliance parle de la relation fondamentale avec Dieu. Elle est aussi contraignante comme un mariage, parce qu'il y a des choses qu'il faut respecter, il y a une loi qu'il faut respecter dans un mariage. Il y a des contraintes, mais elle a brisé cette alliance. Elle n'a pas respecté ses contraintes juste pour se satisfaire, pour ses propres désirs. Et il y avait aussi, comme héritage, sa loi, la loi de Dieu. C'est-à-dire des instructions de Dieu pour le culte et la vie. Il y avait une instruction pour le culte. Lorsque nous parlons de principes régulateurs, c'est que ça vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous, en tant qu'humains, de mettre en place un culte qui est mondain, qui est à l'image des hommes, pour qu'on se dise que non, en fait, nous glorifions Dieu. Non. Dieu, dans sa parole, avait donné des instructions pour l'adorer, pour le louer. Et sa loi précise les seules façons pour que ce partenariat, pour que cette alliance reste harmonieuse. Comme cela nous arrive lorsque nous cherchons des solutions à nos problèmes en négligeant la prière et en négligeant la parole de Dieu. Parce que nous nous considérons au-dessus de Dieu. Nous reléguons Dieu au second plan. J'ai une tête bien pleine. Je peux y aller. C'est vrai. Mais là, on le voit dans ce peuple. Ils n'ont même pas pris le temps de prier leur Dieu pour leur donner un roi. Ils ne sont même pas agenouillés pour demander à Dieu de leur donner des dirigeants qui le craignent. Et donc en conséquence, Dieu passe de notre plus grande aide à notre plus grande menace. Ce n'est pas pour autant que le peuple avait oublié la religion. Il s'agissait d'un peuple qui était extrêmement religieux. Ils n'avaient pas oublié. Et nous pouvons le constater dans les fréquentes références d'Osée à des sacrifices offerts au Seigneur. Le peuple chérissait ce statut particulier, ce statut de peuple de Dieu, de nation choisie par Dieu. On le voit au verset 2. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. D'un côté, ils n'avaient pas oublié Dieu. Ils avaient juste décidé de l'ignorer. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. En dépit de leur violation de l'alliance, ils supposent que Dieu ne les jugera pas ainsi, puisqu'ils incluent dans leur, on peut parler de syncrétisme, c'est-à-dire que ce mélange de doctrine, ce mélange de religion, qui est malsain aux yeux de Dieu, qui mélange la loi de Dieu au culte de Baal. Mais c'est tout ça qui offensait Dieu. Le problème, celle qui ne connaissait plus. Ils avaient abandonné la parole de Dieu. Et leur cri ne reflétait pas non plus une foi qui était véritable en Dieu. Ils criaient à Dieu, mais pas d'une foi véritable, pas de leur cœur. C'était juste au bout des lèvres. Parce qu'ils n'avaient pas mis leur confiance au Dieu de l'Alliance. Jésus s'est opposé à cette fausse religion dans la parabole des deux maisons en disant, dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Mais vous ne respectez même pas ma parole. Vous ne faites même pas ce que je vous demande de faire. » Il a ensuite parlé d'un homme qui avait construit sa maison sur le sable plutôt que sur le roc. Et c'est vraiment une image de l'autosuffisance. Au verset 49, « Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Le peuple d'Israël a ignoré Dieu, a ignoré son titre de peuple de Dieu. Et même aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit chrétien, mais c'est devenu comme un genre de label. Je suis né de nouveau, mais je ne fais rien de ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que j'applique? Est-ce que je vis l'Évangile? Est-ce que je vis selon les ordonnances de la parole de Dieu? Et Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Christ indique dans ce texte qu'il ne sera pas suffisant de le considérer comme maître, uniquement en parole ou par notre témoignage. En fait, il est essentiel que nous croyions en lui, que nous nous répentions de nos péchés, que nous vivons une vie sainte, et que lorsque nous invoquons son nom, que nous puissions nous écarter, nous éloigner de tout péché. Le prophète, au verset 3, conclut par un message de jugement. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Le bien, c'est Dieu lui-même. Le bien, c'est Dieu. Il a rejeté Dieu. L'ennemi le poursuivra. Pour Israël, ses trésors étaient ce qui importait pour lui. Pourtant, l'alliance avec Dieu garantissait l'amour de Dieu pour son peuple. Et sa loi modéliser son cœur pour faire sa volonté. Le prophète accuse les Israélites de s'être éloignés de toute justice et du bien. Israël a donc rejeté, repoussé le bien. L'ennemi, dit-il, le poursuivra. Et lorsque nous bannissons l'intégrité, les valeurs chrétiennes fondamentales dans nos vies, nous sommes exposés à tous les maux. Parce que nous nous sommes privés volontairement de la protection de Dieu. Nous nous sommes privés volontairement de la protection de Dieu. Lorsque nous empruntons le chemin du péché, les compromis mondains, nous nous compromettons nous-mêmes en mettant Dieu à l'écart de tout. Et lorsque les mots arrivent, ces mots nous emportent avec nous. L'ennemi le poursuivra. Et lorsque nos ambitions professionnelles façonnent nos vies, ou lorsque le péché, tout ce qui est sensuel, occupe notre vie, occupe nos mœurs, en reléguant la parole de Dieu en second, mais nous nous dirigeons vers la perte. Et notre Dieu, c'est vrai qu'il nous regarde, il sait tout. Mais l'ennemi nous poursuivra. Mon deuxième point, une confiance en soi dans la gestion de sa nation, dans la gestion d'Israël. Et donc, après le coup de trompette introductif, Osée va commencer à aborder les différents péchés par lesquels il a abandonné le Seigneur. Le premier péché est une confiance en soi pour ce qui concerne la gestion de la nation. On a parlé du choix des rois, de ce qu'il faut faire. Au verset 4, nous lisons, « Ils ont établi des rois sans mon ordre, et les chefs sans se référer à moi. » Nous avons vu qu'au chapitre 6, au chapitre 7 aussi, qu'il y avait une certaine violence qui s'est passée, où des rois se sont succédés par des coups d'État, ainsi de suite. Et donc ici, le fait qu'il revienne, que le prophète revienne sur ce thème, montre cette profonde offense qu'ils ont fait à Dieu lorsqu'ils ne l'ont pas consulté. Bien que Jéroboam ait mal tourné, il était au moins arrivé au pouvoir par la nomination de Dieu, comme Saül et David dans les dynasties précédentes. Dieu a remplacé la maison de Jéroboam par la maison de Jéhu. On l'a vu au chapitre 1, au verset 4. Le peuple n'a pas cherché à obtenir du Seigneur un nouveau roi. Ils n'ont pas prié, mais ils ont suivi chaque imposteur, chaque assoiffé de sang, sans pour autant demander, s'incliner devant le Seigneur et prier, demander des dirigeants pieux, des dirigeants qui craignent le Seigneur. Et c'est ce qui se passe de nos jours, lorsque dans nos églises, lorsque même dans notre vie, en tant que, comme je dis, citoyen d'une nation, on est prompt à critiquer nos gouvernements. Mais est-ce que nous avons prié pour avoir des dirigeants qui craignent le Seigneur? Est-ce que nous avons prié pour un pasteur qui craint le Seigneur? Est-ce que nous prions pour un pasteur selon ce que la parole de Dieu nous enseigne? Mais aujourd'hui, en fait, c'est que nous ramenons le monde dans l'Église. C'est qu'un pasteur est évalué selon les performances du monde, mais pas selon la parole de Dieu. Les dirigeants de ce monde rejettent la souveraineté de Dieu, c'est pas une surprise. Et ils oublient le principe du psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, prions pour que le Seigneur mette sa main. C'est vrai qu'on peut sortir, marcher, protester, on peut le faire. Mais est-ce que c'est la seule chose que nous devrions faire? Lorsque nous ne sommes pas contents, lorsque nous sommes, disant, on est contre certains choix. C'est vrai, il y a des choix qui nous blessent, qui nous offensent en tant que chrétiens. Mais nous avons une arme, qui est la prière. Nous avons un Dieu qui nous écoute aussi. Est-ce que nous devons sortir en tant qu'Église, aller en croisade contre les gouvernements? Je ne dis pas, il y en a qui vont sortir pour le faire. J'ai rien contre cela. Mais premièrement, prions le Seigneur pour qu'il nous donne des dirigeants qui le craignent. C'est vital pour nous, pour que nous ayons aussi la paix, que nous puissions adorer en toute sécurité. Lorsque vous sortez un peu du cadre dans lequel vous êtes, on est en Amérique, c'est très bien. Mais dans certains pays, ils sont persécutés. Ils ne peuvent même pas sortir le bout du nez pour prier ni adorer leur Seigneur. Et c'est un privilège que nous avons d'être dans un pays qui est en sécurité. C'est vrai que les gouvernements prennent des décisions. Même dans l'Église, il y a le mariage homosexuel. Est-ce qu'on va aller en croisade contre les pasteurs, contre les églises? Mais notre premier choix, ce serait de nous agenouiller devant le Seigneur. De lui demander pardon. Pourquoi? Parce que nous n'avons déjà pas prié pour des dirigeants qui le craignaient. Pour des dirigeants qui étaient pieux. L'idolâtrie qui s'en suivit fut un produit de ce leadership qui était mondain. en Israël. Au verset 4, nous lisons, ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. Les idoles nous détruisent. Les idoles nous éloignent de Dieu. Quel que soit les idoles qu'on a, que ce soit l'argent, que ce soit ceux qu'on chérit plus que Dieu, ça c'est des idoles. Ça nous éloigne de Dieu. Le Seigneur déclare au verset 5, l'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. L'Éternel a rejeté ton veau. Nous avons ici un genre, ce qu'on appelle la métonymie. C'est une figure de style qui sert de substitution. Mais le veau ici représente tout le système rituel d'Israël qui est rejeté par Dieu. Parce qu'il ne prend pas plaisir à ces rites-là. Israël, avec ses rituels impies et païens, a provoqué la colère de Dieu. Il cherchait à adorer le Seigneur d'une manière qui était accessible, mondainement. Ils ne voulaient pas vivre selon les ordonnances de Dieu, mais selon leur propre plaisir, leur propre désir. Il leur a été difficile d'adorer un Dieu invisible à travers sa parole. Ils ont changé le culte pour qu'il corresponde davantage à leur penchant sensuel. Le veau viril évoquait la force et la fertilité. Deux bénédictions qu'ils recherchaient ardemment et leur correspondaient à leur notion de gloire terrestre. Mettant au mont Sinaï qu'à Bethel, Dieu est irrité par les veaux d'or. Dieu ne prend pas plaisir à ses veaux. Et il le dit au verset 5, « Ma colère s'est enflammée contre eux. » Le Seigneur a fait l'homme pour qu'il porte son image dans la sainteté et l'amour. Chaque fois que l'homme adore une image de Dieu conçue selon sa propre imagination, ou qu'il invente aujourd'hui ses propres moyens d'adorer le Seigneur, Dieu est furieux. Non pas seulement furieux, mais jaloux aussi. Israël a enfreint le deuxième commandement. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est grave. On ne parle pas uniquement d'une seule génération. En fait, ça veut dire à perpétuité. Non seulement Dieu était jaloux, mais il allait les punir sévèrement. Dieu n'allait pas être passif par rapport à cette offense à son commandement. Et le prophète tourne en dérision ses idoles. Il dit au verset 6, « Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, mais ce n'est pas Dieu et ce n'est pas Dieu. » Ça ne vient pas de Dieu. En disant que les veaux venaient d'Israël, Dieu souligne que les veaux étaient des objets fabriqués par des artisans humains avec des matériaux terrestres tels que l'or et l'argent. Ce sont des hommes qui ont créé ces idoles avec des matériaux terrestres. Alors, comment pouvaient-ils être considérés comme Dieu ? En colère, le Seigneur a prophétisé au verset 6. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. C'est sévère. Et donc la mise en pièces du veau, c'est la preuve de l'impuissance de l'idole. que ces idoles ne peuvent pas les sauver, que ces idoles ne peuvent pas les sortir dans l'état de péché dans lequel ils sont. La preuve que tout le système religieux que le veau symbolisait était sans valeur et inefficace. La motivation derrière l'idolâtrie était la recherche de la sécurité et de la prospérité. Ils recherchaient cette sécurité dans ces veaux. Ils recherchaient la richesse dans ces veaux d'or-là. Mais parce que Dieu avait été offensé, Israël récolterait l'esclavage et la pauvreté. Le seul moyen d'éviter ce jugement était de vivre selon la parole de son Dieu. De rechercher premièrement les choses d'en haut et la justice de Dieu. Israël a cherché à se gouverner par la sagesse des hommes et les ressources terrestres. En se soumettant à des rois forts et autoritaires plutôt qu'au Dieu de l'Alliance. Lorsque nous voyons le problème de l'idolâtrie aujourd'hui, lorsque nous voyons le monde dans lequel nous vivons, les compromis que nous faisons, lorsque nous nous allions avec des églises qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon les ordonnances de Dieu. Juste pourquoi, en effet, pour avoir une certaine renommée. Juste avoir de l'argent, juste pour avoir plus de monde. Mais nous nous détournons de l'essentiel, parce que nous reléguons l'autorité de Dieu en second plan, et nous nous reposons sur l'autorité des hommes, pour avoir des gens dans l'église, une église pleine. C'est ce genre de compromis-là qui nous éloigne du dessein de Dieu. La véritable réponse sera donnée par le prophète Jérémie par rapport à tout ce qu'Israël a vécu. Ils ont offensé le Seigneur. Le Seigneur les a châtiés. Mais Jérémie apporte la vraie solution au problème d'Israël, mais aussi au nôtre. Dans Jérémie 31, les versets 31 à 33. La véritable réponse, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai la loi, ma loi, au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance remplaçant l'ancienne qui avait été rompue, qui avait été violée. Elle est apparue avec la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Non seulement Jésus effacerait la colère de Dieu sur notre péché, en mourant à notre place sur la croix, mais il accorderait un cœur nouveau à ceux qui croiraient grâce à l'Esprit Saint. La nuit précédant sa mort, Jésus était avec ses disciples. Dans Luc 20, 22, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance » en mon sang, qui est répandu pour vous. Suivre Jésus, c'est renoncer à l'autosuffisance. C'est renoncer de se reposer à soi-même. En s'abandonnant à lui, en lui faisant entièrement confiance comme étant notre Sauveur, notre Dieu sur qui nous avons tout, sur notre rocher. Mon troisième point, nous allons voir le deuxième péché, c'est une confiance en soi, dans sa relation avec les autres pays. Des versets 7 au verset 10. Au verset 9 ici, nous lisons aux Énotes que « car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. » Et donc, dans une vaine tentative d'échapper au jugement de Dieu, à cette vague de conquête qui allait arriver, les Israélites sont allés en Assyrie. Comme, dit-il, Osée le dit, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart, Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. L'âne, vous savez quand on dit têtu comme un âne, ça représente la stupidité, le fait d'être insensé. Et Israël était devenu insensé. Et ici, Osée fait aussi sans doute allusion à l'incrédulité du peuple qui a méprisé la protection de Dieu pour se tourner vers des nations qui allaient l'envahir. Car le peuple n'aurait pas dû se précipiter ainsi vers la Syrie pour se protéger. Le prophète les reprend ici pour ne pas avoir considéré le secours de l'Éternel qui leur avait promis dans l'alliance. Le Seigneur les protégeait, le Seigneur les gardait, comme si Dieu ne pouvait rien faire pour leur venir en aide. Ils se sont tournés vers les Assyriens et par rapport à Dieu, c'était de l'ingratitude. Dans cette relation d'alliance, nous savons que Dieu leur tenait lieu d'époux. Parce qu'il leur a donné la foi. Mais quand ils se sont tournés vers un autre, ils étaient comme des femmes impures qui se prostituent et qui abandonnent leur mari. Et Osée ici va même plus loin et il dit qu'il payait. Il payait, il donnait des présents pour avoir des amis, pour avoir des amants. C'est ainsi que le prophète compare la nation à un homme désespéré qui doit payer pour des faveurs, qui doit payer pour une protection. Dieu ne se contente pas d'appeler cela de l'infidélité. Il affirme aussi que ses conséquences seront plus ruineuses que l'acte en elle-même. Et les stratagèmes désespérés d'Israël ne faisaient que l'enfoncer de plus en plus. Parce que nous lisons au verset 7, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers le dévoreraient. » En fait, Israël n'allait se retrouver avec plus rien. Et donc Israël ici est comme une tige de grain qui est mal formée, qui ne va rien produire. Bien qu'ils doivent donner du fruit, il ne contient pas de vrai blé. Et même s'il en produisait, son rapprochement insensé avec les autres nations le ferait dévorer par les oppresseurs. Israël agit avec duplicité. quand on parle de duplicité, deux visages par rapport à la Syrie, par rapport à son Dieu. Mais ni Dieu ni la Syrie n'ont été trompés. Parce que le verset 8 conclut, Israël est englouti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Et on sait qu'au début de son existence, le Seigneur déclarait à propos d'Israël qu'il était unique parmi les nations, qu'il était son trésor particulier. Dans Exode 19, verset 5, nous lisons « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Ce peuple était privilégié. Mais maintenant, leur péché a effacé cette distinction parmi les nations. Dieu ne prend plus plaisir en Israël. Malgré tout ce que le Seigneur a investi en Israël au cours des siècles, ses ruses mondaines l'ont conduit à la pauvreté et à un vide complet. Parce qu'Israël n'avait plus de valeur. C'était un verre vide sans rien dedans. Et nous voyons tout cela de nos jours, même dans l'Église. Même dans l'Église. Je parlais des actions politiques, des actions que nous devrions mener. C'est vrai, oui. Mais n'oublions pas une chose. Ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est vrai que nous pouvons nous lever, mais ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat contre l'ennemi de nos âmes. Et ce que nous devons faire en premier, c'est de prier notre Dieu. Nous imprégner de sa parole, de le connaître et de prier de façon persévérante, de prier pour des rois, de prier pour des dirigeants, de prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Parce que souvent on est bien convaincu qu'on est intelligent, on a la tête bien pleine pour faire des choses. Mais dans le fond, notre intelligence, notre soi-disant sagesse, elle est tellement teintée par le péché que nous demandons même pas pardon au Seigneur pour ce péché. Prions le Seigneur, demandons-lui la direction dans nos choix, que ce soit dans nos choix professionnels, parce qu'on se pose souvent la question, mais je cherche un travail, pourquoi Dieu ne me donne pas un travail? Pourquoi Dieu ne me donne pas un travail? Pourtant Dieu nous donne tout. C'est Dieu qui est notre pourvoyeur. Lorsqu'il nous donne un emploi, c'est parce qu'il sait que nous en avons besoin. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Soit on ne lui dit pas merci, et même souvent notre dîme, on ne lui donne pas notre dîme. Mais pourtant, c'est lui qui pourvoit. Et souvent, on est surpris qu'on n'ait plus d'emploi, par exemple. Mais nous venons aux pieds de notre Seigneur. Éternel, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à tout ce qui m'arrive? Mais souvent, on emprunte des chemins qui nous éloignent du conseil de notre Seigneur. En réalité, nous devons choisir en faire appel aux puissances du monde, ou à nos propres forces, ou à notre Dieu. Les Israélites ont choisi de se faire des alliés parmi les nations. Ils ont oublié le Seigneur. Ils ont non seulement perdu leur véritable force, mais en perdant leur force, ils se sont alliés avec l'ennemi. Ils ont fait alliance avec l'ennemi. L'ennemi qui allait participer à sa chute. La destruction et la chute des Israélites ne sera pas causée par la Syrie, mais c'est la main de Dieu. Ce Dieu qui était en colère parce qu'il n'a pas été consulté. La destruction et la chute des Israélites va emmener un exil. Et bientôt, ils souffriront, comme on le voit au verset 10, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. En référence à une angoisse particulière que les dirigeants d'Israël subiront de la part des puissances mondaines qu'ils ont essayé de duper, qu'ils ont essayé de tromper également. Remarquant que dans toutes ces manœuvres, nous ne lisons rien sur le fait qu'Israël s'est tourné vers Dieu. Il n'y a rien. Israël ne s'est même pas tourné vers son Dieu. Même pas dans la prière. Et l'absence de prière, frères et sœurs, ou un engagement timide dans la prière, ça c'est notre combat, nous tous. Dans ce monde qui va vite, dans ce monde du numérique, on est toujours sur les tablettes, on est dans tout type de distraction, on travaille ici, on va de gauche à droite. C'est un combat. C'est un combat. Mais un engagement timide, l'absence de prière est le signe que nous ne pensons que notre rôle est plus important que celui de Dieu. Parce que nous nous reposons sur nous. Et lui, nous le relayons au second plan. Donc en fait, c'est que nous sommes plus importants que Dieu. Mais nous sommes notre propre idole. C'est ce que ça veut dire. Mon dernier point, des versets 11 au verset 14. Une confiance en soi dans son culte. Et au verset 11, Dieu se plaint et il dit « Éphraïm a multiplié les autels pour pécher et ses autels l'ont fait tomber dans le péché. » Donc, Éphraïm s'est fait ses idoles, mais ses idoles l'ont conduit dans le péché. Israël se couvre de religion sans vraiment faire confiance au Seigneur. Et la première partie du verset 11 semble souligner que si les sacrifices étaient destinés à purifier les péchés du peuple, la pratique impie de leur religion n'a fait que multiplier l'offense à Dieu. Il n'arrangeait rien. Les sacrifices étaient des offrandes pour le péché qui devait devenir le péché en lui-même. Et donc, la non-mention du péché ne faisait qu'aggraver leur culpabilité. Pour Israël, il suffisait de respecter le rituel pour gagner la faveur de Dieu. Juste le rituel. Comme venir à l'église, chanter, repartir. C'est tout. Sans pour autant vivre ou respecter les ordonnances de l'Alliance. Mais Dieu n'est pas de cet avis-là. Il dit au verset 13, « Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point plaisir. » Et cette parodie de culte n'est pas simplement sans valeur, mais elle insultait Dieu. Elle écœurait Dieu. Au verset 12, le Seigneur propose un test. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Et il dit, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Alors qu'ils avaient été élevé dans la doctrine, dans la sainte doctrine, et que le Seigneur les avait appelés à lui dès leur enfance, puisqu'ils auraient dû reconnaître la loi de Dieu comme une bannière sous laquelle le Seigneur les protégeait. Il leur reproche ici de l'avoir considéré comme quelque chose d'étranger. Ce Dieu-là qui les a sauvés, ce Dieu-là qui les a délivrés. Mais ce Dieu-là était devenu pour eux comme un étranger. Pourtant, c'est la religion païenne qui était censée être étrangère et qui devait offenser Israël. Pour Israël, c'est le contraire qui s'est produit. Ce qui avait du sens pour eux, c'était l'idolâtrie qu'ils avaient apprise du monde. Ils ont recherché la prospérité dans les idoles. Ils ont recherché la richesse. Ils ont recherché cette virilité dans des veaux, dans le culte de Baal. Mais ils se sont écartés de Dieu. Et Dieu, dans ses rituels, était étranger. Bien que les Israélites aient oublié la loi de Dieu, le Seigneur n'a pas oublié leur péché. Notre Dieu sait tout. Ce n'est pas un Dieu qui oublie. Il sait tout. Au verset 13, il dit « Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte. » En ramenant le peuple en Égypte, Dieu n'entend pas un déplacement physique vers l'Égypte, mais vers l'esclavage. Et au chapitre 7 précédent, nous avons noté cette similitude entre l'Israël de l'époque d'Osée et l'église de Laodicée, à laquelle Jésus a écrit les dernières de ses 7 lettres dans l'Apocalypse. Et donc, cette comparaison nous avertit ici que le grand danger auquel nos églises sont réellement confrontées en période de trouble ne vient pas de personnes extérieures ou de l'oppression externe, mais de l'infidélité à notre Seigneur. Nous sommes infidèles à Dieu. Et nous lisons Apocalypse 3, verset 16. Jésus avait prévenu, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » On ne peut pas être dedans, avoir un pied dedans, avoir un pied dehors. Avoir Dieu ou avoir les moyens de ce monde. Non. Nous n'avons pas à être, avoir cette tiédeur. On dit, mais, oh ben Jésus, je le garde pour plus tard. Dieu, bon, on va voir après. Ou de venir à l'église juste comme un figurant, chanter, regarder le monde, s'en aller, mais notre semaine est remplie de péchés, de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça la duplicité. Mais même si dans l'église nous ne voyons pas, mais Dieu lui voit l'état de notre cœur. Et Dieu sait tout. Et rien n'est caché. Rien ne lui est caché. Au verset 14, nous lisons « Israël a oublié celui qui l'a fait. » C'est grave. Israël a oublié celui qui l'a fait. Israël a oublié son Créateur. Israël a oublié le Dieu de l'Alliance. Et l'oubli, quand on parle d'oubli, c'est une décision qui est consciente, c'est une décision qui est volontaire. Ils ont volontairement décidé d'oublier le Dieu de l'Alliance. Dans nos défis, qu'ils soient financiers, politiques ou relationnels, est-ce que nous oublions que Dieu est notre pourvoyeur? Est-ce que nous oublions que Dieu est notre rocher, notre ultime protection? Ce n'est pas nos familles. C'est vrai qu'ils sont présents. Mais vous allez même être surpris que même dans nos familles, lorsqu'arrive le trouble, mais ils nous abandonnent. Le monde va nous oublier, le monde va nous rejeter. Même notre père et notre mère peuvent nous rejeter. Mais c'est l'Éternel qui nous recueille. C'est l'Éternel qui nous recueille. Donc c'est en lui que nous devrions mettre tous nos espoirs. C'est en lui que nous devrions nous reposer. Lorsque nous faisons de nos relations, de notre mari, de notre époux, nous, vous savez, des fois nous idéalisons tout ça. Notre emploi, ah, c'est parfait. Mais souvent nous ramenons ça au premier plan et nous oublions même celui qui est à l'auteur de tout cela. C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais lui, en effet, il est capable de nous retirer tout cela. Il est capable de tailler en pièces toutes ces idoles dans nos vies. James Montgomery Boyce souligne la signification de cet oubli en disant « Israël connaissait Dieu intellectuellement. » Intellectuellement. Mais l'avait négligé en le mettant de côté. Elle avait permis à d'autres choses moins importantes de devenir centrales dans sa vie. Pour Israël, la mise à l'écart de Dieu a conduit à la construction du palais, notamment pour impressionner les pays étrangers. La même chose se produisait aussi dans le royaume du Sud, au verset 14. « Et Juda a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera le palais. » Et donc, en l'espace de quelques années, la même armée qui avait conquis Israël s'abattait également sur Juda. Et l'histoire va relater le renversement d'une forteresse après l'autre. Les villes clôturées étaient conçues pour la défense, clôturées pour se défendre contre l'envahisseur, mais elles étaient inefficaces contre la destruction qu'avait ordonné le Seigneur. En conclusion, la clé, ce n'est pas une confiance en soi, c'est la confiance que nous mettons dans notre Seigneur. Quelle place il occupe dans nos vies? Quelle place il occupe dans notre vie personnelle? Quelle place il occupe dans les choix que nous faisons, en tant que personne, en tant qu'église, en tant que communauté de foi? Quelle place il occupe dans notre entourage? C'est vrai que nous avons parmi nous des membres de nos familles qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que nous avons besoin d'altérer notre témoignage? Au contraire, nous avons besoin de refléter la gloire de Dieu pour les témoigner davantage. De prier notre Dieu pour leur salut. De prier pour qu'ils soient sauvés. Mais nous n'avons pas à les fouetter ou à aller en croisade avec eux. Ça n'aura pas d'effet. Mais agenouillons-nous, prions sans cesse. S'il faut même veiller et jeûner, prions pour que le Seigneur opère un miracle dans leur vie. Qu'est-ce qui nous pousse à nous éloigner ou à négliger le Seigneur? Est-ce que c'est notre assurance que nous avons dans notre compte en banque. Et le Seigneur peut tailler tout cela en pièces. Ah oui. Lorsque vous voyez un peu dans les marchés, il y a un lundi où Donald Trump a dit qu'il allait appliquer les tarifs douaniers. Mais les gens se sont affolés. Pourquoi ? Parce que les marchés chutaient. Mais en fait, ils voyaient leur argent s'effondre. Parce qu'en effet, c'est leur assurance. Ils ont mis tout là-dedans. Plaçons-nous nos relations avant le Seigneur. Si nous continuons à mettre Dieu de côté ou à nous éloigner de lui, il peut faire à nos faux dieux ce qu'il a fait aux faux dieux de Samarie et de Jérusalem. Tous deux réduits en cendres. Et c'est ce qu'il peut faire. Il est puissant, il est souverain au-dessus de tout. Il peut briser nos idoles personnelles lorsque cela l'offense. Si pour nous nos idoles sont ce qui nous donne une joie, nous donne la paix, et que ce n'est pas le Dieu, ce Dieu-là qui nous la donne, c'est que nous devons nous demander pardon. Ça veut dire que nous mettons notre joie dans ce qui n'est pas dans le Dieu Tout-Puissant, dans le Dieu de l'Alliance. Nous devons donc nous efforcer de faire les choses qui plaisent au Seigneur, car, comme Hébreux 11, verset 6 le dit, il récompense ceux qui le cherchent. La loi de Dieu définit la manière dont les enfants de Dieu sont censés vivre. La loi et toutes les autres paroles de Dieu que Dieu a données sont des expressions de son amour pour nous. Ce sont des expressions de son amour pour nous. La désobéissance à la loi de Dieu est donc un rejet de son amour. Nous devrions veiller à recevoir la parole de Dieu comme un don gracieux et y répondre par l'obéissance comme preuve de notre amour en Dieu. Quelle folie que d'ignorer le Dieu que David a chanté dans le psaume 31, verset 4. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Jésus ne nous appelle pas seulement à mettre toute notre confiance en lui, en disant « Heureux les débonnaires » dans Matthieu 5, verset 5. Débonnaires, on peut parler aussi de ceux qui sont doux. « Car ils hériteront de la terre. » Nous hériterons de la terre et de la vie éternelle aussi en Jésus-Christ. Il nous invite également à adopter une perspective qui est entièrement différente de notre vie de pèlerin ici-bas. Dans Matthieu 6, 19 à 21, nous lisons « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruiront point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen.